Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, même si ce n'est pas marqué par la liturgie à cause du dimanche, l'Église universelle aujourd'hui fête la maternité divine, c'est-à-dire le titre de Mère de Dieu donné à la très sainte Vierge Marie et qui a été défini comme dogme de foi au Concile d'Éphèse en 431. Cela nous reporte à une période mouvementée de l'histoire de l'Église, au temps des grandes hérésies christologiques. Le démon n'ayant pas réussi à anéantir l'Église, malgré 3 siècles de persécutions sanglantes, essayait un autre moyen, détruire la foi chez les fidèles par l'hérésie, et spécialement l'hérésie concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà 1 siècle auparavant, un fils du démon, Arius, avait bouleversé le monde chrétien en prétendant que notre Seigneur n'était qu'un homme. L'arianisme étant vaincu, en particulier par la résistance héroïque de géants de la foi, comme saint Athanase, saint Hilaire, Satan suscita Nestorius. C'était un moine d'Orient que l'on avait remarqué pour sa très grande éloquence. En plus, il donnait les apparences extérieures d'une vie très mortifiée. Alors il apparut comme très digne de recevoir l'épiscopat et de devenir patriarche de Constantinople le 10 avril 428. On voyait en lui un nouveau saint Jean Chrysostome et on se réjouissait. Ce qu'on ne savait pas apparemment, c'est qu'il était l'héritier de tendances théologiques peu orthodoxes concernant notre Seigneur et qu'il était d'un terrible orgueil. La joie des bons fut alors de courte durée. Le jour de Noël 428, en pleine cathédrale, profitant de l'immense concours de peuple qui venait fêter la nativité de notre Seigneur, Nestorius s'exclama en plein sermon « Marie n'a point enfanté Dieu, son fils n'était qu'un homme, instrument de la divinité. » Un frémissement a parcouru toute la cathédrale. Il y avait des clercs qui étaient là, personne ne dit rien. Alors c'est un laïc, Eusèbe, qui s'est levé en pleine cathédrale et qui a protesté publiquement. Don Guéranger, ici, dans son année liturgique, à l'occasion de la fête de Saint Cyril d'Alexandrie, a une réflexion bien utile en notre époque où les vérités de la foi sont passées sous silence ou défigurées par les membres de la hiérarchie. Je vous cite Don Guéranger. Il est dans le trésor de la révélation des points essentiels dont tout chrétien, par le fait même de son titre de chrétien, a la connaissance nécessaire et la garde obligée. Il peut arriver, dit-il, que des pasteurs restent silencieux pour une cause ou pour l'autre en certaines circonstances où la religion même est engagée. Les vrais fidèles sont les hommes qui puisent dans leur seul baptême, en de telles conjonctures, l'inspiration d'une ligne de conduite. Non les pusillanimes qui, sous le prétexte spécieux de la soumission aux pouvoirs établis, attendent pour courir à l'ennemi ou s'opposer à ses entreprises un programme qu'il n'est pas nécessaire et que l'on ne doit point leur donner. Fin de citation de Don Guéranger. Alors on peut dire honneur ici, par exemple, à notre époque, aux laïcs, qui après le dernier concile, appuyés sur les grâces de leur baptême, ont quitté leur paroisse, où la nouvelle messe et les nouveaux catéchismes mettaient leur foi en danger et la foi de leurs enfants. Et malgré l'opposition des évêques, se sont mobilisés pour organiser des catéchismes, soutenir les bons prêtres, fonder des chapelles. Et ils ont ainsi préparé le terrain, Monseigneur Lefebvre, pour sauver la foi dans toute l'Église. Nestorius fit appel à la police de l'empereur. Il fit fouetter et emprisonner le brave Eusèbe. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. Le sermon avait fait scandale dans toute la capitale, et dans les semaines et les mois qui suivirent, dans d'autres sermons, dans des lettres, Nestorius ne cessait de se justifier, et d'une manière si habile que plusieurs évêques d'Orient en furent troublés et se rallièrent à lui, et que même l'empereur Théodose II commençait à le soutenir. Pour résumer en quelques mots l'hérésie de Nestorius, voici ce qu'il faut dire. Alors que la foi nous enseigne que notre Seigneur a deux natures, la nature divine et la nature humaine, qui sont unies en une seule personne divine, la seconde personne de la Sainte Trinité. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique, union des deux natures en une seule personne. Hypostas, ça veut dire personne. Nestorius soutenait qu'il y avait deux personnes en notre Seigneur, une personne divine et une personne humaine. Ce qui revenait à dire que le Verbe de Dieu ne s'était pas fait homme. Vous savez qu'à la fin de la messe, l'évangile de Saint Jean, nous disons « Et verbum caro factum est » et nous nous mettons à genoux. Alors là, ça ne va plus avec Nestorius, bien sûr. Le Verbe de Dieu, pour lui, ne s'était pas fait homme, mais il habitait dans un homme. À peu près de la même manière que Dieu habite dans notre âme lorsque nous sommes en état de grâce, mais pour notre Seigneur, c'était d'une manière plus intime qu'avec nous seulement. Donc un saint absolument extraordinaire, mais un homme. Et la conséquence était que la Vierge Marie n'était pas vraiment la mère de Dieu, mais plutôt la mère de l'homme qui avait pour nom le Christ. Et il ajoutait même qu'appeler Notre-Dame mère de Dieu, c'était imiter la folie des païens qui donnaient des mères à leur Dieu. Évidemment, c'était extrêmement grave. Alors un nouvel Athanase s'est levé, Saint Cyrille, le patriarche d'Alexandrie en Égypte. Il lui écrivit d'abord avec grande charité, essayant par de nombreuses lettres de lui montrer son erreur, de le ramener à la vérité, mais ce fut en vain. Nestorius se murait dans son orgueil. Et pendant ce temps, l'agitation gagnait tout l'Orient. Alors Cyrille décida d'attaquer publiquement. Il écrivit à son clergé « Peiner, vivre et mourir pour la foi de Jésus-Christ est mon plus grand désir. Je ne donnerai point de sommeil à mes yeux, je ne fermerai point mes paupières, je n'accorderai point de repos à ma tête, que je n'ai livré le combat nécessaire au salut de tous. » Un saint était assis à Rome sur le siège de Pierre, le pape Saint Célestin Ier. Saint Cyrille l'avertit. L'affaire s'étendait à l'Église universelle. Nestorius tenta de se justifier auprès du pape, mais en vain. Ses écrits imprégnés d'erreurs aggravaient au contraire son cas. Et comme l'agitation continuait dans tout l'Orient, il fut décidé de convoquer un concile solennel à Éphèse, dans l'actuelle Turquie, là où la très sainte Vierge avait demeuré auprès de saint Jean. Et le pape avait nommé Cyrille pour présider le concile. Il est impossible ici de décrire toutes les péripéties de ce concile. Nestorius, qui s'était rendu à Éphèse avec un très grand nombre de gens armés, mais qui n'osa jamais se présenter devant les évêques, devant le concile. Les calomnies, les vexations, les persécutions de ses partisans à l'égard de Cyrille, qui fut même emprisonné un moment, tandis que des évêques furent molestés. Mais ce n'est pas cela qui pouvait arrêter un saint, ni les 200 savants et pieux évêques qui étaient réunis. Alors, après quelques jours de débats, d'études, appuyés sur une tradition qui remonte aux apôtres, les pères du concile réaffirmèrent qu'en notre Seigneur, il n'y a pas deux personnes, mais une seule personne divine qui s'est unie à la nature humaine. D'ailleurs, si notre Seigneur n'était qu'un homme, comment son sacrifice aurait-il eu la valeur infinie qui seule permettait de réparer en toute justice les péchés de l'humanité ? Par son hérésie, Nestorius détruisait toute la foi catholique. Notre Seigneur est donc Dieu, et s'il est Dieu, on peut affirmer en toute vérité que la très sainte Vierge Marie, qui lui a donné naissance, est Mère de Dieu. Les pères déclarèrent alors excommuniés et anathème, c'est-à-dire séparés de l'Église, tous ceux qui soutiendraient le contraire, dont Nestorius. Mais à Éphèse, les habitants aimaient beaucoup la Sainte Vierge, évidemment, c'était là où elle avait vécu, ils gardaient sa maison avec vénération. Alors, lorsque les habitants d'Éphèse apprirent le résultat du concile, ils se dirigèrent en foule vers l'église Sainte-Marie où ils s'étaient tenus. Les évêques furent acclamés à leur sortie avec des cris de triomphe. « Béni soient ceux qui sont venus nous rendre la mère de notre Dieu !» Tenant des flambeaux allumés, les fidèles raccompagnèrent les évêques à leur demeure, répandant des fleurs. Les femmes avaient des petits récipients avec des parfums qu'elles faisaient brûler devant les évêques. On baisait les franges de leurs robes et on criait « Vive Marie, mère de Dieu !» Nestorius fut excommunié solennellement et déposé. Un autre évêque fut consacré à sa place et une quinzaine d'évêques qui continuaient à le soutenir furent excommuniés et déposés. Il y avait de l'autorité dans l'Église à cette époque-là. Nestorius termina sa vie exilé en Égypte, mais continuant à écrire pour défendre sa doctrine. Malheureusement, elle continuera à se répandre chez un certain nombre d'évêques, et la chrétienté d'Orient, divisée, affaiblie par le nestorianisme et encore d'autres hérésies, et plus tard par le schisme, c'est une chrétienté qui finira par devenir la proie de l'islam. Voilà la conséquence de l'hérésie. Voyons maintenant brièvement quelles conséquences nous pouvons tirer de ces événements et de ce dogme de la maternité divine de la très sainte Vierge. Tout d'abord, cet épisode de l'histoire de l'Église nous montre combien est précieux le trésor de notre foi. S'il est parvenu jusqu'à nous, si nous y croyons aujourd'hui paisiblement depuis notre baptême, n'oublions jamais que c'est grâce au sacrifice de milliers de martyrs, grâce aux ailes infatigables des papes jusqu'à Pie XII, grâce au courage héroïque d'une multitude d'évêques qui l'ont défendu, on peut le dire, à la pointe de l'épée, l'épée de la parole de Dieu, comme dit saint Paul. Et cela au prix de persécutions, de souffrances sans nombre. En notre temps, nous avons eu Monseigneur Lefebvre, grâce à qui nous sommes ici aujourd'hui, nous ne serions pas là. Et il semble que Monseigneur Vigano prenne sa succession, au moins par la parole. Mais le premier devoir de l'évêque, du bon pasteur, c'est la prédication de la foi, mais aussi la lutte contre les erreurs et les hérésies pour protéger le troupeau contre les loups. Alors, ce trésor de la foi qui a coûté si cher et sans lequel personne ne peut être sauvé, qui est maintenant entre nos mains, gardons-le précieusement. Entretenons-le par la prière et la lecture religieuse et transmettons-le à notre tour. Deuxième leçon, c'est de ce dogme de la maternité divine que découle la suprême dignité de la Vierge Marie. Marie n'est pas une sainte comme les autres, disait le père Calmel, elle est la sainte mère de Dieu. Alors elle dépasse tous les anges, même les plus élevés, et sa dignité est en quelque sorte infinie, dit saint Thomas d'Aquin. En conséquence, rien ne peut davantage plaire à notre Seigneur qui aime sa mère d'un amour immense que de nous voir honorer et vénérer la Sainte Vierge comme elle le mérite. Enfin, du fait d'avoir donné naissance au Sauveur du genre humain, Notre-Dame est devenue notre mère à tous, nous que notre Seigneur a voulu avoir comme frères. L'ayant choisi comme mère de son fils unique, dit le pape Léon XIII, il lui a inculqué des sentiments tout maternels qui ne respirent que l'amour et le pardon. Alors tournons-nous plus que jamais vers elle en nos temps incertains, sachant que sa condition de mère de notre Seigneur lui donne un pouvoir tout spécial sur le cœur de son fils. Nous sommes assurés alors qu'elle nous fera franchir toutes les difficultés, toutes les épreuves. Nous sommes les seuls sur cette terre à avoir un tel secours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.